RCF. La Bible a plusieurs voix. Vous entendrez aujourd'hui les voix de
Sylvie Chanfraud,
Marie-Pierre Desfossés,
Jean-Luc Autrette,
Malou Lebar, c'est merci à Guillaume Thiénot, toujours elle est à la technique. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous ouvrons notre Bible au chapitre 17 de l'Évangile selon saint Matthieu. Nous sommes dans le parcours toujours des fils vers la liberté. La vérité vous rendra libre, la condition de fils, comment Jésus en parle. Et donc, nous vous proposons le petit passage qui va du verset 22 à la fin de ce chapitre-là, donc au verset 27. Je vous propose tout de suite d'entendre la lecture de ce passage.
Comme ils s'étaient rassemblés en Galilée, Jésus leur dit « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Comme ils étaient arrivés à Capharnaüm, ceux qui perçoivent les 10 drachmes s'avancèrent vers Pierre et lui dirent « Est-ce que votre maître ne paie pas les 10 drachmes ?» « Si, dit-il. » Quand Pierre fut arrivé à la maison, Jésus prenant les devants lui dit « Quel est ton avis, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils taxes ou impôts ? De leurs fils ou des étrangers ?» Et comme il répondait « des étrangers », Jésus lui dit « Par conséquent, les fils sont libres. » Toutefois, pour ne pas causer la chute de ces gens-là, « Va à la mer, jette l'hameçon, saisis le premier poisson qui mordra et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. »
Voilà un passage qui peut nous sembler assez énigmatique, hein, un chemin que Jésus nous fait suivre pour essayer d'entendre quelque chose de ce qu'il en est de la condition des fils à sa suite. Alors, les versets 22 et 23 qui ouvrent ce passage, nous les avons déjà un petit peu commentés dans une précédente émission, mais on pourrait juste reprendre l'essentiel. Donc, Jésus est avec ses disciples, il est en Galilée,
oui,
et non pas à Jérusalem. Donc, et nous sommes dans la deuxième annonce de la Passion. Jésus leur dit « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront ». Et le troisième jour, il ressuscitera. Voilà une annonce. Qu'est-ce qu'on peut en dire? La première annonce, c'était Jésus qui disait qu'il fallait qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des scribes. Et donc, ici, il y a cette expression plus large, le Fils de l'humain doit, le Fils de l'homme.
Une ouverture plus grande, en fait, de cette annonce, qui concerne, oui, en fait, l'humanité entière.
Alors nous étions attardés sur cette expression en disant qu'il y avait un élargissement à l'universel, Sylvie, avec le fait que les humains sont tous dans la violence finalement.
Voilà, les humains sont tous dans la violence et tous concernés parce que tous doivent faire aussi ce chemin-là.
Alors tous concernés par quoi? par le fait d'être soumis à la violence. Est-ce que vous voulez dire ?
Oui.
Bon, donc il y a le fils de l'humain et puis il y a les mains des humains. Les mains des humains, c'est du côté de la violence. Hein. Et c'est donc une violence, semble-t-il, universellement répandue. Bon, je pense que là-dessus, on peut être d'accord. La violence est à l'œuvre dans notre monde qui tourne tel qu'il tourne. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est quand même une...
Oui, c'est une...
assez universel, malheureusement.
C'est une évidence, malheureusement.
Oui, et puis c'est de toutes les époques aussi.
Voilà. Et donc, par contre, l'expression « le fils de l'humain », ce qu'il en est d'être fils, alors évidemment, le fils de l'humain, le fils de l'homme, nous pensons au fils de l'homme, Jésus-Christ, mais là, ça n'est pas dit, il ne dit pas que c'est lui, hein, le fils de l'humain. Donc ça nous permet, puisque c'est complètement décontextualisé, ça nous permet d'entendre ben, peut-être que chaque être humain, s'il veut accéder à la condition de fils, de ce qu'il en est, le fils du royaume, eh bien, il aura à suivre un parcours qui sera aussi un chemin de croix avant d'arriver à la résurrection, parce que c'est ça aussi qui est quand même le but du coup, l'accomplissement, on peut dire, du parcours.
Du parcours, oui.
Voilà, filial. Et ils étaient profondément attristés, alors nous avons vu là aussi que ben, les disciples... ne voit sans doute pour le moment que l'aspect souffrance et passion.
Souffrance, séparation d'avec leur maître, et ça les rend tristes, oui, effectivement.
Voilà.
Mais on a dit aussi que finalement, il y avait un début d'acceptation.
Oui,
oui, oui,
par rapport à la première annonce.
Ils avaient fait un petit bout de chemin, en fait, depuis la première annonce.
Oui, enfin, c'était Pierre qui représentait les disciples, qui avait dit, ah ben non, 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 ça ne t'arrivera pas, Seigneur. Et puis, il s'était fait entendre cette parole assez violente que Jésus lui a adressée, arrière Satan. Hein, donc, tes vues ne sont pas celles de Dieu. Alors, nous continuons la lecture de ce petit passage. Comme ils étaient arrivés à Capharnaüm, ceux qui perçoivent les 10 drachmes s'avancèrent vers Pierre et lui dirent « Est-ce que votre maître ne paie pas les 10 drachmes ?»« Si, dit-il. » Alors, les 10 drachmes, précisons de quoi il s'agit. C'est quoi les 10 drachmes en question, là ?
C'était la taxe, en fait, qui était due au temple par chaque juif, en fait.
Oui.
Pour l'année, en fait, donc, voilà. C'était une sorte d'impôt.
D'impôt religieux, que le culte autour du temple, le culte au temple, puisse se dérouler dans de bonnes conditions. Donc voilà, et les changeurs étaient installés sur le parvis du temple. Voilà. Autrement dit, une sorte de denier de l'église, hein, de l'époque. Voilà. Donc, et 10 drachmes, ça veut dire 2 drachmes. Hein. C'était ce que chaque Israélite mâle devait payer. Voilà. Il devait s'en acquitter. Et mais ici, on a quand même une petite précision au verset 24, comme ils étaient arrivés à Capharnaüm.
Oui, alors il y a une petite précision en fait sur le contexte, c'est-à-dire qu'au départ il était question de la Galilée, et là on fait un petit zoom vers cette ville de Capharnaüm qui est sur les bords de la mer de Tibériade en fait.
Oui, voilà, le verset 22 signalait que Jésus et ses disciples étaient en Galilée. C'était aussi la Galilée des nations quand même, et c'est ça. Et là, on va être dans un contexte de ce qui concerne la vie ensemble, quoi, la vie du collectif, et même du collectif religieux. Hein, donc voilà. Et donc, ceux qui perçoivent les 10 drachmes s'approchèrent de Pierre et lui dirent « Votre maître ne paie-t-il pas les 10 drachmes ?»« Si, dit-il. » Ça a l'air d'être clair pour lui.
On peut se poser la question de savoir s'il le sait vraiment, en fait. Mais en tout cas, il répond si, ouais.
Et donc, on pourrait se poser la question si, pourquoi c'est à lui qu'on pose la question et pas à Jésus, finalement.
C'est vrai. D'ailleurs, oui. Il disparaît un peu de ces deux versets-là.
Oui, Jésus disparaît. Et la question, elle est aussi interro-négative.
Oui.
Donc, ça pourrait laisser le doute.
Ça veut dire quoi, Marie-Pierre? Aller jusqu'au bout, une question interro-négative, ça vous dit quoi?
Ben, ça laisse un doute, parce que là, il répond si, mais il aurait pu dire, ben, interrogez-le, ou je ne sais pas.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, si on dit ne paye-t-il pas, c'est que ça, ça suggère plutôt
qu'il pourrait ne pas payer.
Qu'il pourrait ne pas payer. Et donc, c'est plutôt ça qui serait un peu l'objet du litige. Hein. Et puis, bah, Pierre, il répond d'office. Bah, si. Voilà. Mmh. Est-ce que c'est une réponse d'étourdie? Non, ou est-ce que c'est une réponse de logique pour lui?
C'est logique, c'est clair.
Pour lui, il n'y a pas de doute, il tranche.
Ben voilà. Et donc, il engage en quelque sorte son maître sur un parcours qui est un parcours, comme tout le monde. Oui, maître en question, il paye les 10 drachmes.
Et d'ailleurs, Manou, vous précisez maître, effectivement, parce que les fameux, comment on dirait-je, percepteurs. des 10 drachmes, eux, sont sur ce registre-là. En fait, c'est forcément un maître qui a du savoir, en fait. Hein. Et effectivement, la question, comme disait Marie-Pierre, elle est ambiguë. Elle est ambiguë. On cherche la faille, quelque part, là, semble-t-il.
Voilà. Alors, quand Pierre fut arrivé à la maison, Jésus, prenant les devants, lui dit « Quel est ton avis, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils taxes ou impôts ? De leurs fils ou des étrangers ?» Et comme il répondait « Des étrangers », Jésus lui dit « Par conséquent, les fils sont libres. » Alors voilà, donc on a changé de lieu. On n'est plus au sein de la grande ville de Capharnaüm. Mmh. Hein, et là, c'est étrange peut-être cette expression « arriver à la maison ». Qu'est-ce que c'est que cette maison ?
Arriver dans la maison, finalement, on pourrait dire qu'on arrive dans le régime des fils. C'est là où se tiennent les fils, dans la maison.
Alors, vous allez peut-être un peu vite en besogne, là, quand même. Hein, voilà. En tout cas.
Finalement, dans le monde de Capharnaüm, il y a un autre espace où Jésus se tient des gens. Parce qu'il précède.
Oui, alors donc, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il ne faut peut-être pas prendre la maison comme le numéro tant de la rue tant, un bâtiment où Jésus habite avec. Voilà.
On est peut-être dans une figure, en fait, la fameuse figure de la demeure. Et c'est vrai que ce n'est pas sans faire allusion au précédent extrait du chapitre 16, au moment où, en fait, Jésus instituait Pierre comme étant la pierre sur laquelle on allait construire l'Église. Donc, est-ce que là, on ne pourrait pas faire un lien avec cette parole?
C'est-à-dire que cette maison-là, qui est à édifier, en tout cas, nous apprenons qu'il n'y a que Jésus qui peut aller devant. C'est lui qui est devant, hein, prenant les devants. Jésus le précède dans cette maison, alors que Pierre avait tendance à vouloir avoir un autre parcours pour le Christ. Hein. Donc il est... Et donc là, c'est intéressant pour nous d'entendre, oui, il y a une maison qui est sans doute celle où Jésus peut être fils, le fils par excellence, et où il peut introduire des fils à sa suite. Mais il y faut du temps encore pour Pierre, hein, avant de comprendre. Jésus lui dit, quel est ton avis, Simon, les rois de la terre, de qui perçoivent-ils? De leurs fils ou des étrangers? Jésus s'adresse à qui?
À Simon. C'est-à-dire que ça a changé. On ne parle plus de Pierre, et ça, c'est effectivement pas anodin. Il s'adresse aux pêcheurs, là, en fait, qui...
C'est-à-dire, comment vous écrivez pêcheur, là? Pêcheur, je voudrais bien savoir.
Celui qui pêche à la ligne, le poisson.
Le pêcheur de poisson, c'était son métier. Il a été appelé en tant que... C'était Simon. C'est Jésus qui lui a donné le nom de Pierre lors de l'appel.
Oui, mais donc, en fait, si Jésus l'appelle Simon, c'est qu'il le prend là où il est, quoi. Là où il est,
c'est lui qui a répondu oui, c'est bien Simon qui a répondu oui à la question.
Peut-être que ce que je voulais dire, c'est que Simon, c'est celui qui représente cette part d'humanité profonde dans laquelle nous sommes tous. Hein, et donc, c'est à cette part-là que Jésus s'adresse pour lui faire entendre qu'il y a peut-être une vérité autre à laquelle il n'accède pas, à laquelle il n'accède pas d'emblée. Hein. Je pense que c'est quand même comme ça qu'on pourrait envisager les choses. Et donc, Jésus va proposer une petite parabole. Enfin, il y en aura deux d'ailleurs, en quelque sorte, dans ce récit. Mais là, il y en a une petite. Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils taxes et impôts, de leurs fils ou bien des étrangers ? Voilà. Donc, lui répond, des étrangers. Et Jésus en déduit. Donc, les fils sont libres. Voilà. Simon devait penser que son maître devait payer. Vous vous rappelez ce qu'on a dit ? Donc, en fait, selon la logique de ce petit dialogue, son maître ne fait pas partie des fils qui sont libres. Qu'est-ce que vous en pensez ? S'il devait payer.
S'il devait payer, oui.
Oui. Si dans l'esprit de Simon, Jésus devait payer, bon, c'est qu'il était dans l'optique, il était du côté des étrangers.
Des étrangers, oui.
Des étrangers, voilà. Les étrangers, ce sont les étrangers à la maison royale. Hein. C'est bien ça qu'il nous faut comprendre. Donc, c'est très intéressant parce que cette petite parabole, elle n'est pas sur le registre religieux ici. Elle est sur un registre autre.
Très pragmatique, effectivement.
Oui, ce sont les rois de la terre.
Mmh. Oui, mais en même temps, donc, dans cette logique, effectivement, que eh bien, les fils de rois ne sont pas en dette vis-à-vis envers de... leurs parents. Oui. Hein, voilà, les fils de rois n'ont pas à payer, l'impôt. Donc voilà, il n'y a que les étrangers qui doivent payer. Donc voilà, donc déjà petit à petit, nous sentons que Jésus avance avec Simon hein, pour le faire entendre. Donc il a entendu tout de suite, les étrangers ne payent pas. Non, pardon, les étrangers payent l'impôt et les fils
ne payent pas.
Donc Jésus dit la règle générale, les fils sont libres. Ça, c'est une phrase extraordinaire quand même que nous n'avons pas fini de méditer. Hein. Les fils sont libres. Donc tous ceux qui sont appelés à être fils, à la suite de Jésus, leur condition, c'est d'être libre. Alors je m'arrête un petit peu sur cette affirmation fondamentale et nous allons prendre un petit temps de pause musicale. Nous lisons au chapitre 17 de l'évangile de Matthieu, ce petit passage-là où Pierre se trouve avoir été interrogé par ceux qui perçoivent les 10 drachmes, l'impôt pour le culte du temple, et puis que on lui demande si son maître paye ou non, et il répond, si, il paye. Et puis après, Jésus, en quelque sorte, le prend à part, ou prend à part ses disciples dans la maison, c'est-à-dire dans un lieu qui est sans doute le lieu d'accueil de ceux qui sont appelés à devenir fils à la suite du Christ, et le lieu où Jésus prie cette Simon lui demande, ben voilà, les rois de la terre, hein, de qui perçoivent-ils taxes ou impôts? De leurs fils ou des étrangers? Et Simon répond parfaitement, logiquement, des étrangers. Et lui dit, ben, par conséquent, les fils sont libres. Les fils sont libres de tout impôt. Hein. Le non-paiement de la dette, le non-paiement des impôts, de l'impôt, dit la condition de fils. Hein. Voilà, c'est ça que nous avons à entendre. Voilà. Et donc, je continue, nous sommes au verset 26, et comme il répondait des étrangers, Jésus lui dit, par conséquent, les fils sont libres. Toutefois, pour ne pas causer la chute de ces gens-là, va à la mer, jette l'hameçon, saisis le premier poisson qui mordra et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Alors, un statère, c'est l'équivalent de 2 drachmes. Et de 2 dix drachmes. Et donc, ce qui veut dire 4 drachmes. Mais bon, un statère, c'est une pièce unique, on pourrait dire, hein, ici. Voilà. Bon, alors, on est quand même assez désarçonné, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour ne pas scandaliser ceux qui sont les percepteurs de l'impôt religieux, donc Jésus va proposer un parcours assez étonnant pour Pierre. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors vous laissiez entendre, Manu, précédemment, qu'on était un petit peu aussi peut-être dans une seconde parabole, donc auquel cas, il faut peut-être qu'on s'intéresse, on fasse peut-être un pas de côté pour pouvoir l'entendre autrement qu'à la première lecture. En tout cas, si on la lit au plus près du texte, il y a des participes présent en fait, qui nous laisse entendre qu'on est dans une le pêcheur, il est dans de l'événementiel, il va se passer des choses. On pourrait dire par exemple étant allé à la mer et ayant ouvert la bouche, donc il y a le poisson montant, enfin il y a un certain nombre de parties présentes qui nous laissent entendre que des choses se passent comme des événements qui arrivent.
Oui, mais alors j'entends pas très bien ce que vous dites là, parce que vous traduisez littéralement quoi ce qui est dit, ce qui est écrit à partir du grec. Est-ce que ça change quelque chose par rapport au fait que Jésus lui dise bah, « va à la mer, jette l'hameçon, saisis le premier poisson, ouvre-lui la bouche ». Ça change quelque chose pour vous?
Oui, parce qu'en fait, c'est à travers le fait qu'il aille à la mer qu'il va jeter l'hameçon. Il n'a pas décidé forcément d'aller à la mer à un moment donné ou à un autre. Et il se trouve qu'il est, il est dans cet événement-là, et dans cet événement-là, dans le courant de sa vie, il va jeter l'hameçon. Ensuite, il soulève le premier poisson montant. Et c'est dans l'événement d'ouvrir sa bouche qu'il trouvera un statère, en fait. Donc c'est...
Pour moi, mais ça, c'est quand même énigmatique. C'est de quoi il est question là? Moi, je pense qu'il faut qu'on revienne au début. C'est afin que nous ne les scandalisions pas, pour ne pas qu'ils soient scandalisés. Alors, qu'est-ce que vous entendez là? Puisque le scandale, ce serait que Jésus, le maître et ses disciples avec eux, en tout cas le maître, ne paye pas
l'impôt, ouais.
L'impôt religieux. Et Jésus leur dit à Pierre, bah si, bah il faut pas les scandaliser. De toute façon, en fait, on pourrait dire ils vont le tuer. De toute façon, ce n'est pas la même chose de laisser les choses se faire ou de provoquer l'antagonisme. Est-ce que vous voyez, donc, c'est un peu comme Saint Paul qui dira, pour pas se choquer, scandaliser, il faut pas manger les viandes qui sont destinées au sacrifice, etc. Hein, donc, il y a de toute façon l'opposition entre le Fils de l'homme et le monde. Mais pas besoin de s'opposer pour le moment. De toute façon, ça va se faire. Hein. Alors, le parcours que Pierre doit faire, ou Simon, hein, comme on veut. Donc, il faut qu'il aille à la mer, il faut qu'il prenne son hameçon, qu'il jette l'hameçon, et qu'il soulève le premier poisson qui monte, et qu'il ouvre sa bouche. Alors, ça, on entend bien que c'est pas une pêche ordinaire quand même. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, et quelque part, c'est ça rejoint quand même ce qui faisait le métier du Pierre avant qu'il rejoigne Jésus. Donc c'est quelque chose qu'il connaît.
Oui, ce que vous voulez dire, c'est que l'univers de la pêche, c'est son univers.
C'est hein. Ça. Oui.
Sauf qu'il lui avait été dit qu'il ne pêcherait plus des poissons, des humains. Alors là,
donc ça, c'est finalement le lieu de la mer aussi symbolise le lieu de la mort. Donc le fait de jeter l'hameçon, c'est penser qu'il y a quelque chose à trouver dans ce monde qui a à voir avec la mort. Chercher peut-être. Dans l'humanité, ce qui a à voir avec le Fils et qui était perdu. Parce qu'il est question quand même de trouver...
Là, vous allez vite, là. Il va falloir
trouver quelque chose.
il va falloir qu'on travaille un petit peu là-dessus, quand même. Hein. Jésus lui dit d'aller à la mer, de jeter l'hameçon et de saisir le premier poisson qui monte. Alors, mot à mot, c'est ça, le premier poisson montant. Qu'est-ce qu'on entend déjà on peut dire, bien sûr, quand on jette l'hameçon, il faut soulever, etc. Mais quand on dit ça, le premier poisson qui monte, ce qui monte là, celui qui monte,
Il y a une élévation, en quelque sorte.
Et voilà, il y a un signe, et puis il y a une parole en plus, parce que il a une bouche, ce poisson, hein, ça va être un signe et une parole. Donc, au-delà du fait même que à l'intérieur il va y avoir un statère, hein, donc, mais le signe de ce qu'il en est des fils, quand c'est le premier poisson trouvé, oui. Il va parler.
Oui,
le premier poisson trouvé.
Ça nous fait penser au Christ.
Ça suppose qu'il faut chercher aussi, en fait. Si on trouve, il faut chercher.
Mais non, apparemment, il suffit de jeter l'hameçon.
Oui.
Le poisson monte.
Oui,
c'est donné.
C'est-à-dire qu'en fait, vous comprenez qu'ici, ça nous paraît énigmatique, parce qu'en fait, Jésus dit à Pierre, en quelque sorte, fais ton travail, ce pourquoi tu as une vocation, et de toute façon, tu trouveras ce qui va te permettre dans le monde des humains, dans le monde qui tourne, comme on dit, comme ça, d'acquitter ce que tu dois acquitter. Mais attention, ça, c'est un statère unique et ça sera pour toi et pour moi. Qu'est-ce que vous entendez dans le fait que ça sera pour tous les deux?
Une dimension communautaire, une dimension d'assemblée déjà, en fait, une préfiguration d'une église déjà. En fait,
et donc ça sera en quelque sorte l'accomplissement peut-être du paiement, parce que le paiement en question, il aura déjà changé de nature, puisque c'est pour toi et pour moi. Hein, donc dans la manière de s'acquitter de ce que le monde attend, il y aura déjà la marque de l'unité entre les deux, entre Pierre et Jésus. Ça va porter la marque de cela. Donc le chemin, ça va être que ça va faire signe, il y aura un signe et il y aura une parole qui vont aller ensemble. Donc en faisant ton travail, Pierre, il va trouver la juste posture qui est celle des fils, hein. Donc est-ce qu'il entend encore pour le moment qu'il va lui être proposé à lui-même d'ouvrir ce chemin des fils pour d'autres, hein, voilà. Donc est-ce qu'il va entendre qu'il est associé au chemin du fils en tant que fils, et que lui-même il va devoir accueillir cette transformation profonde en lui pour accueillir que les fils sont libres, et de cette liberté-là qui n'a pas grand-chose à voir avec la vie du monde qui tourne, mais qui ne va pas non plus faire qu'ils vont sortir de ce monde. Ils sont dans ce monde. Hein. Donc, alors je précise que finalement, bien, c'est ce mystérieux statère là qui est là, ce qui symbolise ce lien avec le Fils de l'humain. Merci d'avoir été avec nous pour ce chemin un peu ardu à travers ce qu'il en est de la condition des fils. À une prochaine fois sur RCF.